Bonjour et bienvenue à Espérance aujourd'hui. Je m'appelle Ian.
Et je m'appelle Hélène. Nous sommes heureux de vous retrouver.
Espérance aujourd'hui est une émission de réflexion biblique.
La personne de Jésus-Christ demeure au cœur du message de la Bible et de la foi chrétienne. Il est donc essentiel de comprendre sa vie et son enseignement, ainsi que le sens de sa mort et de sa résurrection.
C'est dans cette optique que nous continuons aujourd'hui notre étude sur l'Évangile de Marc. Nous allons aborder le chapitre 15. Mais avant de lire le texte pour aujourd'hui, je voudrais souhaiter la bienvenue à Matthieu, qui va nous aider à mieux comprendre le message qu'il contient. Matthieu, bonjour.
Bonjour Yann, et bonjour à tous. Merci pour votre invitation.
Matthieu, avant de passer à notre lecture biblique, pouvez-vous nous parler du contexte de ce chapitre 15 dans le récit de l'Évangile de Marc?
Ce chapitre relate les dernières heures de la vie de Jésus, et notamment sa crucifixion. La dernière fois, notre émission a pris fin au moment où Jésus meurt sur la croix, et aujourd'hui nous allons reprendre la suite de ce récit, trouvé dans les versets 37 à 47.
Alors, le rideau du temple se déchira en deux de haut en bas. Voyant de quelle manière il était mort, l'officier romain qui se tenait en face de Jésus dit « Cet homme était vraiment fils de Dieu !» Il y avait aussi là quelques femmes qui regardaient de loin. Parmi elles, Marie de Magdala, Marie la mère de Jacques le jeune et de Jose, ainsi que Salomé. Quand il était en Galilée, c'était elle qui l'avait suivi en étant à son service. Il y avait aussi beaucoup d'autres femmes qui étaient montées avec lui à Jérusalem. Le soir venu, c'était le jour de la préparation, c'est-à-dire la veille du sabbat, Joseph d'Arimathée arriva. C'était un membre éminent du Grand Conseil qui, lui aussi, vivait dans l'attente du royaume de Dieu. Il eut le courage de se rendre chez Pilate pour lui demander le corps de Jésus. Pilate fut surpris d'apprendre que Jésus était déjà mort. Il fit appeler l'officier de service et lui demanda s'il était mort depuis longtemps. Renseigné par le centurion, il autorisa Joseph à disposer du corps. Celui-ci, après avoir acheté un drap de lin, descendit le corps de la croix, l'enveloppa dans le drap et le déposa dans un tombeau taillé dans le roc. Puis, il roula un bloc de pierre devant l'entrée du tombeau. Marie de Magdala et Marie, mère de Jose, regardez où il le mettait.
Merci. Au moment où Jésus meurt, quelque chose d'étrange et d'extraordinaire se produit dans le temple de Jérusalem, à 300 mètres du lieu où il est crucifié. Il nous est rapporté que le rideau du temple s'est déchiré en deux, du haut en bas. Matthieu, pourquoi inclure ce détail dans ce récit? Pourquoi est-il si important?
Ce détail ouvre nos yeux à une vérité merveilleuse que je voudrais expliquer. Ce rideau se trouvait au cœur du temple à Jérusalem. Il séparait une petite pièce appelée le lieu très saint du reste du temple. Selon l'enseignement de l'Ancien Testament, le Dieu saint était tout particulièrement présent dans cette petite pièce. Toutefois, la seule personne qui avait un droit d'accès en ce lieu était le grand prêtre, et ceci seulement une fois par an. Le rideau est donc le symbole que les hommes pécheurs ne peuvent pas entrer librement dans la sainte présence de Dieu. Ce rideau est un rideau de séparation.
Et au moment où Jésus meurt, ce rideau se déchire. Ceci n'est pas un hasard, me semble-t-il.
Non, pas du tout. À travers cet événement, Dieu fait passer un message. Mais notons d'abord un petit détail. Le rideau se déchire du haut en bas, et non dans le sens contraire.
Et pourquoi ce détail est-il important ?
Parce qu'il prouve qu'il s'agit d'un miracle divin. Le rideau étant très haut, un homme n'aurait jamais pu le déchirer de haut en bas. Un homme aurait commencé en bas pour le déchirer vers le haut. De plus, aucun homme, même le plus grand, n'aurait pu atteindre le sommet de ce rideau. Si donc le rideau s'est déchiré de haut en bas, c'est qu'il doit s'agir d'une intervention divine.
Merci pour cette explication. Revenons alors à la signification de cet événement. Quelle est-elle ?
En bref, grâce au sacrifice de Jésus-Christ, grâce à sa mort sur la croix, les hommes et les femmes ont dorénavant la possibilité d'entrer dans la présence du Dieu trois fois saint. le chemin d'accès à l'Éternel est de nouveau ouvert. Il n'y a plus d'obstacle. La dernière fois, j'ai insisté sur le fait que sur la croix, Jésus a porté nos péchés et qu'il a enduré la juste colère de Dieu à notre place. Du coup, ceux et celles qui placent leur foi en Jésus sont pardonnés. Ils peuvent donc se réconcilier avec Dieu et marcher avec lui dans une relation personnelle, semblable à celle qui lie un père à son enfant. Le fait que le rideau se soit déchiré vient appuyer ces propos et souligne qu'effectivement, ceux et celles qui se confient en Christ peuvent entrer librement dans la présence de Dieu. Écoutons quelques versets de l'Épître écrite aux Hébreux qui confirment cette vérité.
Ainsi donc, mes frères, nous avons une pleine liberté pour entrer dans le lieu très saint, grâce au sang du sacrifice de Jésus. Il nous en a ouvert le chemin, un chemin nouveau et vivant à travers le rideau du sanctuaire, c'est-à-dire à travers son propre corps. Ainsi, nous avons un grand prêtre éminent, placé à la tête de la maison de Dieu. Approchons-nous donc de Dieu avec un cœur droit, avec la pleine assurance que donne la foi, le cœur purifié de toute mauvaise conscience, et le corps lavé d'une eau pure.
Merci. Nous venons d'écouter les versets 19 à 22 du chapitre 10 de l'Épître aux Hébreux. Oui, je vois bien que l'auteur de ces paroles reprend ce thème et confirme votre explication.
En effet, l'auteur emploie un langage très imagé, décrivant l'intérieur d'un temple pour insister sur des leçons spirituelles importantes. Le sacrifice de Jésus-Christ a détruit l'obstacle infranchissable qui se dressait entre Dieu et les hommes. Jésus, par sa mort, a réouvert la route qui conduit dans la présence de Dieu. De ce fait, si nous devenons unis à Christ par la foi, nous pouvons nous approcher de Dieu avec confiance et assurance. Nous pouvons nous approcher de Dieu avec l'assurance que nos péchés sont pardonnés, avec l'assurance qu'il nous accepte et qu'il nous accueille au lieu de nous renvoyer. Nous pouvons nous approcher de lui avec la confiance qu'il écoute nos prières et qu'il nous répondra d'une façon ou d'une autre, car il nous aime.
Avant le sacrifice de Jésus, rares sont les personnes qui ont joui du privilège de passer derrière le rideau du temple, conduisant dans le lieu très saint. Quel changement extraordinaire aujourd'hui!
C'est exact, Yann. Et nous ne pouvons qu'être reconnaissants pour tous les privilèges merveilleux acquis par Jésus sur la croix. Et à quel prix?
Oui, j'aurais aimé que nous nous y attendions, mais nous devons avancer dans notre étude pour considérer le verset suivant. Voyant de quelle manière il était mort, l'officier romain, qui se tenait en face de Jésus, dit « Cet homme était vraiment fils de Dieu ».
Oui, il s'agit d'une confession de foi remarquable.
Et d'autant plus remarquable que c'est un officier romain qui fait déclaration et non pas un juif.
C'est exact, Yann. Dans la foule massée autour de la croix, la plupart des personnes se moquaient de Jésus et le méprisaient. L'élite religieuse juive se réjouissait du succès de leur complot. La plupart des soldats manifestaient leur indifférence et se montraient endurcis. À côté de cette foule haineuse, quelques femmes, cependant, malgré leur désespoir, continuaient à exprimer leur dévouement envers Jésus. Le disciple Jean se trouvait également au pied de la croix avec la mère de Jésus. Toutefois, seul cet officier romain déclare publiquement au sujet de Jésus « Cet homme était vraiment fils de Dieu ».
Et que voulait-il dire par là? Qu'a-t-il compris?
Nous ne savons pas exactement ce qu'il a compris en déclarant que Jésus est fils de Dieu. Cet officier a dû être le témoin de nombreuses crucifixions, et il a sans doute remarqué que celle de Jésus est différente. Puis, il y avait aussi l'obscurité surnaturelle qui est descendue sur Jérusalem. Dire que Jésus est fils de Dieu, c'est reconnaître qu'il jouissait d'une relation toute particulière avec le seul vrai Dieu, celui qui est tout-puissant, saint et éternel. Mais c'est peut-être aussi le cri de Jésus, dont nous avons parlé la dernière fois, qui a frappé cet officier. « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Seule une personne ayant vécu une relation intime avec Dieu le Père aurait pu pousser un cri pareil. Ceci dit, cet officier éprouve du respect pour Jésus là où la plupart des gens présents n'expriment que haine et mépris.
Et pouvons-nous en apprendre quelque chose?
Depuis certaines émissions, nous parcourons l'évangile de Marc. Peut-être, cher ami auditeur, n'avez-vous pas eu l'occasion d'écouter toutes nos émissions à ce sujet. Quoi qu'il en soit, nous sommes convaincus que cet évangile nous conduit à la conclusion que Jésus est effectivement le Fils de Dieu. Par cela, nous voulons dire que Jésus est celui que Dieu a choisi et oint pour être le roi serviteur par excellence promis par les prophètes de l'Ancien Testament. Par cela, nous affirmons aussi que Jésus jouissait d'une relation privilégiée avec Dieu. Enfin, si Jésus est le Fils de Dieu, nous pouvons dire qu'il est divin et éternel, qu'il est Dieu fait homme, qu'il est Dieu parmi nous.
Ce sont des vérités extraordinaires.
De nos jours, la plupart des personnes, comme celles qui se trouvaient autour de la croix, méprisent Jésus et refusent de reconnaître qu'il est le Fils de Dieu. Il est vrai que beaucoup le respectent, mais seulement en tant que prophète ou en tant qu'homme sage et bon. Toutefois, l'officier romain est allé beaucoup plus loin. Il a reconnu que Jésus est Fils de Dieu et il a eu le courage de le déclarer dans une situation tendue et houleuse. Chers amis, nous prions pour que vous ayez, à travers nos études, cette même conviction sur l'identité de Jésus. Les récits bibliques confirment tous qu'il est le Fils éternel de Dieu, qu'il est Dieu fait homme, qu'il est Dieu parmi nous. Nous prions, chers amis, pour que vous ayez non seulement la foi, mais aussi le courage de confesser cette foi en Jésus, même là où elle est critiquée et ridiculisée.
Merci Mathieu. Ce chapitre 15 de l'évangile de Marc se termine avec l'enterrement de Jésus. Notre émission touche bientôt à sa fin. Voulez-vous ajouter quelque chose ?
Oui, deux choses. D'abord, l'évangile ne se termine pas avec la mort de Jésus. Fort heureusement, le chapitre 16 fait suite au chapitre 15. Et ce chapitre 16 annonce la résurrection de Jésus 3 jours plus tard. Or, la résurrection confirme cette confession de foi de l'officier romain. Dieu n'aurait pas ressuscité un criminel, un blasphémateur ou un homme sous l'emprise d'un démon. Non, Dieu a ressuscité Jésus parce qu'il est le Fils. Quel père ne redonnerait pas la vie à son Fils s'il avait le pouvoir de le faire ? Oui, la résurrection confirme que Jésus est le Fils de Dieu. Enfin, certains savants de nos jours mettent en doute la résurrection de Jésus en affirmant que Jésus n'est pas réellement mort sur la croix, mais qu'il s'est simplement évanoui et qu'il a repris conscience après avoir été placé dans le tombeau. Ceci contredit la fin du chapitre 15 de l'évangile de Marc, qui nous annonce que l'État romain a vérifié, avant son enterrement, si Jésus était vraiment mort. Ces soldats avaient de l'expérience, ils savaient bien reconnaître la présence de la mort dans un cadavre. La théorie du simple évanouissement ne tient pas du tout. La résurrection a vraiment eu lieu, et nous pouvons y croire avec une pleine confiance.
Merci Mathieu pour votre participation enrichissante tout au long de cette série. Vous serez bientôt de retour pour effectivement aborder le chapitre 16. En attendant, chers amis, de vous retrouver tous, nous vous disons au revoir.
Au revoir et que Dieu vous bénisse.